Histoire de l'Église, c'est la huitième leçon. Donc, on commence en faisant une citation de Mosheim. Mosheim qui est considéré comme étant un des plus grands historiens luthériens. Donc, c'est luthérien, c'est les protestants suivant Luther. Il a écrit « Quiconque suppose que les évêques de cet âge d'or de l'Église, c'est-à-dire 33 à 100 dans le premier siècle, que les évêques de l'Église primitive correspondent aux évêques des siècles suivants, doit mélanger et confondre les caractères qui sont très différents. Car dans ce siècle et dans le suivant, donc dans le premier siècle et le second siècle, un évêque avait la charge d'une seule église qui, ordinairement, aurait pu être contenue dans une maison privée. Il n'était point son seigneur, mais en réalité son ministre ou serviteur. Toutes les églises en ce temps primitif étaient des corps indépendants. En d'autres termes, aucune d'entre elles était soumise à la juridiction d'une autre. Car bien que les églises qui avaient été fondées par les apôtres eux-mêmes aient fréquemment l'honneur d'être consultées pour des cas douteux, elles n'avaient aucune autorité judiciaire, aucun contrôle, aucun pouvoir d'émettre des lois. Bien au contraire, c'est aussi clair que le plein jour, toutes les églises avaient des droits égaux et étaient dans tous les domaines sur un pied d'égalité. Et puis, il y a un autre auteur, Robinson, dans un livre qui s'appelle « Recherche ecclésiastique », il montre que pendant les premiers trois siècles, les églises, les congrégations étaient libres de l'État et donc n'avaient aucun pouvoir séculier. Il montre aussi qu'il n'y en a aucune mention des petits enfants étant baptisés jusqu'en l'année 370. Donc, en 360, je ne sais pas ce que j'ai bien de dire, 370, c'est ça que j'ai dit? Non, bien. Donc, 370, aucun baptême de petit enfant n'était rapporté jusqu'en cette année-là. Il a, dans les notes, je veux dire, là, c'est les notes de l'Institut biblique à Limay, on a la remarque que le mot universel signifie rassembler en un tout, le tout, l'ensemble. Le mot catholique signifie selon le tout, en un tout, le tout, dans l'ensemble ou en général. Et le mot écuménique veut dire la terre habitée, l'humanité, l'ensemble des habitants de la terre. C'est un peu pour montrer que si on dit universel, catholique, écuménique, c'est tous pour dire la même chose. Pas exactement les petites nuances de différence, mais globalement la même chose. Je vais sauter quelques pages et revenir peut-être voir ces autres choses encore. Je voulais parler de Constantin. Constantin était fils de Constance Chlore, co-empereur à l'ouest de l'Empire romain, dans les années 305-306. Ce n'était pas très long. Hein? Il était fils de Constance Chlore et de Hélène. Hélène était chrétienne. Constantin a épousé la fille de l'empereur Maximien et était proclamé César par les légions de Bretagne en 306. Alors Maxime voulait assassiner Constantin, mais il n'a pas pu le faire. Et la disparition de Galère, un autre empereur, en 311, laissait quatre prétendants au règne de l'Empire. Donc il y a une lutte qui a suivi, et à la fin, c'est Constantin et Licinius qui se sont alliés ensemble pour combattre Maxence et Maximienne. Constantin a franchi les Alpes, donc en venant côté Angleterre, n'est-ce pas, Bretagne. Il est traversé les Alpes en descendant pour les Alpes vers Rome et vint livrer bataille à Maxence aux portes de Rome en 312. Maintenant, on va lire à propos de sa conversion. Selon l'historienne Eusèbe, Constantin, peu avant ce combat à Rome, devant les portes de Rome, il vit le signe d'une croix au ciel avec l'inscription, entre guillemets, par ce signe vainque, fin de guillemets, ou ferme les guillemets. Cela se passait le 27 octobre 312, vers 15 heures. Le soir venu, Constantin eut un rêve. Il vit la figure de Christ qui lui commandait de faire une bannière selon la vision. Le matin du 28 octobre, il fit faire cette nouvelle bannière pour ses armées. Eusèbe a dit qu'il aurait cru tout cela impossible s'il ne l'avait entendu de la bouche de Constantin lui-même. En réalité, nous n'avons que le témoignage de Constantin. Donc, il avait, je ne sais pas combien de soldats étaient dans la Légion, mais c'est beaucoup de monde pour faire un symbole le matin. Hein, c'est un peu incroyable, cette histoire. Et le point de l'auteur de ces notes, c'est que Eusèbe nous le dise, parce que Constantin l'a dit, mais il n'a pas d'autres soldats qui ont confirmé que voilà, Constantin m'a fait un tel symbole tel jour. C'est simplement Constantin raconte ça des années plus tard. Constantin était un génie politique. Avec le peu de connaissances qu'il avait de la chrétienté et ce qu'il avait vu en Gaule, il projeta deux conclusions. Premièrement, la chrétienté deviendrait la religion dominante du monde romain, et bien que l'Empire pouvait être sauvé ou du moins prolongé grâce à une union avec cette église, cette religion dynamique. Donc, il voulait que la religion soit le ciment de son empire. Alors, question, est-ce que Constantin était converti à Jésus-Christ? Donc, comme on a dit tout à l'heure, sa mère était chrétienne, son père était païen, donc il avait certaines connaissances quand même, mais il ne voulait, donc il croyait que le baptême sauvait. Et lui ne voulait pas être baptisé qu'à la fin de sa vie, pour que tous ses péchés soient effacés. Donc là, c'est pas avoir confiance en Jésus-Christ, c'est avoir confiance dans une rite religieuse. Donc ça, c'était 312, 313, donc, en 312, il pénètre à Rome et en 313, il démarre un régime de tolérance, on dit l'édit de Milan, vis-à-vis des chrétiens pour donner la paix, la liberté de religion. Et donc, à partir de 313, il va lutter contre son collègue Licinius pour devenir seul maître, seul empereur de tout l'Empire en 324, donc ça a pris 10, 11 ans de lutte contre son ancienne collègue pour le vaincre. Le problème avec la chrétienté à l'époque, c'était que bien que Constantin voulait unir l'empire avec le ciment de chrétienté, le problème c'est que la religion chrétienne n'était pas unie. Il y avait déjà trois écoles pour former les pasteurs. On a parlé déjà d'Alexandrie. Il y avait à Alexandrie, il y avait à Antioche, et qu'est-ce que c'est le troisième? Je sais plus. On va peut-être trouver ça. Donc, la plus vieille école était celle d'Alexandrie. Donc, on a déjà vu que cette école interprétait le christianisme par la philosophie. Elle allégorisait la Bible. La seconde école, qui était fondée plus tard, bien que l'Église était plus ancienne que l'Église de Rome, donc fondée vers la fin du IIIe siècle, se trouvait à Antioche. À Antioche, l'école pastorale enseignait qu'il fallait interpréter les Écritures littéralement, comparant les versets avec d'autres versets et prenant en considération l'étymologie et l'arrière-plan historique. La troisième école, à l'ouest de l'Empire, cherchait à appliquer la Bible. Appliquer, c'est dans le sens comment pratiquer le christianisme et non pas la théorie derrière. Ces trois écoles étaient très hostiles les unes envers les autres. La religion était aussi divisée dans l'Église hiérarchique, donc on a parlé de ça, d'une part, et de l'autre part, les montanistes, les novationnistes, les donatistes, de l'autre part. Alors, la façon dont Constantin a traité les donatistes avait un but purement politique. Il a fait de son mieux pour les faire entrer dans l'Église hiérarchique, par des recours, débats et des menaces et finalement des persécutions. Mais tout cela sans succès. Puis, face à la controverse arienne, il semblait que l'Église hiérarchique allait se diviser. Constantin fut obligé de devenir l'évêque des évêques. Donc Constantin, qui n'est pas chrétien, qui est chef de l'Empire romain, il devient le pasteur des évêques sans même être baptisé. Il n'est pas baptisé. Donc, il est devenu cet évêque des évêques avec l'accord de tous les puissants évêques de l'Empire. Et donc, en 325, il a réuni le concile œcuménique. Donc, ça, c'est le premier concile œcuménique. À Nicée. Donc, quand vous parlez avec des personnes et on parle des conciles œcuméniques, on parle des conciles qui étaient convoqués par divers empereurs. Le premier concile de l'Église, en Actes chapitre 15, n'est pas dans cet sujet. Hein, ça n'a rien à voir. Le premier concile de l'Église, en Actes chapitre 15, c'est Actes chapitre 15, voilà. Mais quand on parle des conciles œcuméniques, on parle à partir de Constantin. Donc, il a établi le précédent que c'est l'empereur qui convoque les conciles. Ils sont œcuméniques parce que c'est l'empereur qui est chef de tout l'Empire romain qui convoque une conférence pastorale, donc des évêques, pour l'Empire entier. Entier.
Tout confondu.
Tout confondu, oui.
Donc, ils étaient bien éloignés de la parole de Dieu.
Oui, parce que le chef, celui qui dicte ce qui va se passer, n'est même pas chrétien.
Donc, ils étaient déjà dans des traditions. Ils étaient beaucoup déjà dans des traditions.
Alors, dans son comportement personnel, l'empereur était loin de se comporter comme un chrétien. Il fit mourir son fils Flavius Crispus, accusé injustement par sa belle-mère Fausta, qui bientôt le payait de sa tête. Donc il a tué son fils, il a tué sa femme. En 330, il transféra la capitale à Byzance, qu'il fit reconstruire d'une façon magnifique, et il fut baptisé juste avant sa mort et laissa l'empire à ses trois fils, Constantin II, Constant Ier et Constante II. Et en plus, donc, le nom de Byzance était par la suite appelé Constantinople. La ville de Constantin. Voilà. Alors donc, il gardait ses cruautés. Il restait chef de culte païen. Il était considéré l'évêque des évêques, le chef des évêques. Il voulait que l'Église soit visible et universelle comme l'Empire.
Pour avoir ça lui permettait d'avoir plus facilement l'œil sur tout.
Oui, tout à fait. C'était question de contrôle. Oui. Si je peux lire ce que j'ai écrit, attendez. Ah oui, donc Eusèbe, qui a raconté histoire de ce signe dans le ciel qu'il a vu et tout ça. Eusèbe, donc c'est le premier historien, un grand historien de l'Église, il considère Constantin comme loin du Seigneur. Ok, loin du Seigneur. Qui est loin du Seigneur? Vous vous souvenez? Loin, c'est le Messie. Le Messie du Seigneur. Alors, en tant que Messie du Seigneur, en tant que loin du Seigneur, qu'est-ce qu'il est?
Comme celui qui est loin.
Loin.
D'accord.
Attends,
je n'ai pas capté là.
Donc, le historien, oui. Eusèbe, considère que Constantin était loin du Seigneur. Loin. O-I-N-T.
Ah oui, d'accord.
Qu'il était le Messie du Seigneur. Il est chef de l'Empire. Il est le roi. Mais qu'est-ce que ça... Il représente qui, donc? Il représente l'Antichrist. Il représente l'Antichrist.
Et il refaisait ce que les Romains faisaient avant le christianisme. Il se mettait comme un dieu, pratiquement, au-dessus.
Oui, il se protégeait de ça. Il était, on va dire, mieux dans cet aspect-là. Mais quand même, il est vu comme, par les historiens, comme le Christ. Christ et Constantin, pour Eusèbe, sont devenus un, une seule personne. Dieu n'agit que par les hommes. Et donc, pour Constantin, l'Église était l'Ecclesia Milita, ou l'Église combattant, l'Église militaire. Donc, pour le dire, aujourd'hui, des fois, vous allez entendre parler par certains fondamentalistes vont dire l'Église militant. Cette phrase, l'Église militant, donc c'est une phrase qui est très ancienne, mais c'est une phrase romaine et non pas biblique. Donc, simplement pour savoir. Mais nous savons ce qu'il veut dire. Nous, quand on dit une Église militante, ça veut dire que ça fonctionne, ça marche à l'avant. Ce qui avance. Mais la phrase revient à Constantin. On va parler de cette nouvelle relation avec les liaisons entre l'Église et l'État. L'alliance commencée par Constantin entre l'Église et l'Empire a changé l'histoire de tous les deux. Voici les changements majeurs occasionnés pour l'Église officielle. Une nouvelle controverse. Quelle était la relation entre Église officielle et État? Parce que quand l'Église était libre de l'État, il n'y avait pas de question. Mais une fois que les Églises, d'ailleurs à Nicée, quand Constantin a convoqué le premier concile écuménique à Nicée, il y a à peu près le tiers des pasteurs le tiers des évêques de l'époque, qui sont venus à ce conseil. Donc, c'est le tiers, donc c'est la minorité qui a établi l'avenir pour la totalité. Donc, maintenant, c'est une question de relation. Soit l'État devrait contrôler l'Église, parce que c'est un État, c'est une Église officielle, donc un département de l'État. Soit l'Église est au-dessous de l'État, donc l'État n'a pas le pouvoir sur l'Église, ou bien l'Église et l'État sont égaux. Trois possibilités. Alors, aussi, quand l'Église est devenue Église d'État, cela a augmenté son influence séculaire. L'Église, maintenant, suit le modèle impérial de l'Empire. L'empereur voulait l'unité. Tout ce don qui se trouvait en dehors de l'Église officielle devait cesser d'exister. Les nouveaux évêques devaient recevoir l'accord de l'empereur. Donc, je ne suis pas sûr pour le français. En anglais, on dit « investiture ». Donc, c'est peut-être le même mot. Quand un évêque prend sa position, il est investi, hein, « investiture ». Donc, il est doté de pouvoir par l'État, par l'empereur. Donc là, ça n'a rien à voir avec la Bible. Il y a l'intégration des païens. Ils entraient dans l'Église par le baptême sans la nouvelle naissance. Bon, tout ça n'était pas tout de suite, mais c'était dans le cheminement par la suite de Constantin et ses fils et ses petits-fils. Et on a le début de monachisme. Monachisme, donc, parce que on a tous ces non-convertis qui entrent dans l'Église officielle. Donc, l'Église officielle devient plus en plus pécheresse. Donc, les gens qui ont un cœur d'être des vrais chrétiens, ils disent que, bon, dans l'Église, c'est que des pécheurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut devenir des moines et des ermites ailleurs pour ne pas être dans ce groupe des gens bizarres. Donc l'impureté des mœurs chrétiennes, donc pagano-chrétiennes, dans l'Église officielle a provoqué une réaction pour rechercher la pureté par les œuvres. Quelque part, oui.
Alors, c'est
oui, parce que
au début de la création des couvents,
non, c'est au début, c'est les cénobites, c'est les gens qui s'éloignent, qui vont vivre dans une grotte, dans un rocher, sur un arbre, et plus tard, ce sera au moins 100 ans plus tard qu'il y aura des groupes. Revenant donc sur Constantin, pas vraiment sur lui-même, mais question de baptême. Donc, lui ne voulait pas être baptisé qu'à sa mort.
Sa mort, mais si Dieu lui avait coupé l'herbe sous le pied un peu plus tôt. Il, hein?
Oui, oui.
Enfin, bref.
Donc, dans l'année 416. Dans l'année 416, le baptême des petits enfants est décrété comme étant obligatoire, puisque déjà dans le 324, on croit que le baptême sauve. Donc plus tard, on va obliger que tous les citoyens de l'Empire soient christianisés par le baptême. Et dans l'année 416, donc, on oblige que tous les bébés soient baptisés. Comme ça, on a, voilà, et tout le monde est chrétien. Donc, c'est l'Empire chrétien, d'accord? On pourrait appeler ça le constantinisme plutôt que le catholicisme.
Et ça a permis comme ça de compter. C'était plus facile pour compter la population.
Plus.
Contrôle de savoir combien il y avait de gens.
Donc là, pour terminer, on va simplement répéter un petit peu concernant les églises nouveau testamentaires. S'il y avait à l'époque des églises vraiment bibliques, ils auraient été représentés par ce que je vais lire maintenant. Premièrement, la séparativité, donc l'indépendance et autonomie des églises. Chaque église, on a parlé de ça la dernière fois, chaque église était indépendante. Sans pouvoir les uns sur les autres. Seconde, la subordination des évêques ou des pasteurs à leur propre assemblée. L'évêque, donc le responsable d'une église, était mis en place par l'assemblée, par les frères et sœurs, pour gérer et servir. Donc, s'il ne servait plus, on pouvait, l'assemblée qu'il a mise en place pourrait le licencier aussi. Tandis que maintenant, quand on pense à un évêque, on pense à quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, beaucoup d'autorité. Et le baptême était exclusivement pour les croyants. Par conséquent, ces églises néo-testamentaires ne pouvaient que rejeter toute proposition de se composer en une organisation supra-ecclésiastique. Qu'elle soit régionale, nationale, impériale ou écuménique, chaque option s'excluait obligatoirement et sans possibilité de compromis. C'est pour cela que aujourd'hui même, on veut souvent que toutes les églises soient dans la même association, que ce soit un titre ou un autre titre. On voudrait qu'ils soient tous dans le même panier. Mais bibliquement, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas se joindre à la papauté, on ne peut pas se joindre à telle ou telle association, etc., pour que ça devienne une hiérarchie d'autorité au-dessus de l'église locale. L'église locale est indépendante, autonome, elle s'occupe de ses propres affaires. Et elle s'occupe de ses propres affaires. C'est pas, on va attendre que les chrétiens de Paris viennent et s'occupent de nos affaires. Ah ben non, c'est pas ça. C'est chaque église s'occupe de ses affaires ou cesse d'exister. Elle ne pouvait également qu'exclure tout évêque ou diacre qui tentait de s'imposer. Donc là, je vous ai dit, ceux qui voulaient s'imposer étaient les Nicolaïtes. Hein, c'est ceux qui veulent oppresser, opprimer le peuple. Et donc, quand un pasteur ou un évêque voulait prendre position sans que l'Église accorde cette position, eh bien, l'Église devait dire non, on n'a pas besoin de vos services. Elle ne pouvait que refuser de baptiser tout candidat qui ne donnait pas préalablement un témoignage personnel de nouvelle naissance. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce que quelqu'un comme une dame demande peut-être de se faire baptiser. Ben, on va lui poser des questions. Avez-vous cru en Jésus-Christ? Non. Ben, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va expliquer l'utilité du baptême. C'est pour manifester que la personne croit en Jésus-Christ. Mais le baptême ne signifie pas, ne fait pas la foi de la personne. Donc, il faut premièrement croire en Jésus-Christ et par la suite se faire baptiser en témoignage de sa foi en Jésus-Christ. Donc, il y a cette indépendance, mais en même temps, les églises néo-testamentaires entretenaient des relations fraternelles entre elles et même coopéraient dans l'entraide et l'entreprise missionnaire. Donc, ce n'est pas pour dire, par exemple, à Brive, si un jour on a, enfin, Dieu voulant, une église, que cette église est la seule église au monde. On reconnaît qu'il y a d'autres chrétiens autour de nous, et donc, là où on peut, on communie avec les autres chrétiens pour avoir la communion fraternelle. Hein, et puis, comme il dit, l'entraide pour aider les uns et les autres. Sans pour autant vouloir dicter aux autres églises qui doivent faire les choses comme nous faisons les choses. Nous ne devons pas les mettre et d'autres églises ne devront pas notre maître. Donc c'est là qu'on va arrêter aujourd'hui et on va parler un petit peu des divers empereurs la prochaine fois.